RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Virginie Fulpin.
Il est 20h06, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont fidèles à notre rendez-vous de 20h. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, je ne louperai
salut,
pas
salut,
un
salut,
rendez-vous.
Salut, salut. Ah,
j'espère bien. Oh, même en chanson, oui. N'est-ce pas? Après la 16e étape du Tour de France. Ah oui. Les annonces de l'orage, mais qu'est-ce que vous voulez? Et on y a cru quand même, là, je sais pas, il y avait encore deuxième, troisième, quatrième, c'est ça les Français aujourd'hui?
Ouais, c'était la dernière.
C'était la dernière et c'est encore raté. Alors, c'est pas passé loin, hein, mais...
On ne sait jamais, il y a encore, dans une étape comme l'Alpe d'Huez, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Justement, il y a Bertrand qui nous appelle au 32-16 pour nous parler de Pierre Roland. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Dream Team.
Bonsoir. Salut. Roland.
Alors, je voulais répondre un peu à Bourgui tout à l'heure, qui oui. disait que Roland avait lâché dans la tête, et je suis pas du tout d'accord.
Ah bon? Il montre quoi, là?
Oui.
Il a lâché dans les jambes, alors?
Laisse-moi parler.
Oui, oui, je te laisse.
Non, on est d'accord que sa stratégie, sa façon de courir n'a pas été forcément au top depuis le début de ce tour. On est d'accord qu'il voulait le général. Il s'est vite aperçu que c'était compliqué d'accrocher absolument ce maillot à poids qui l'a fait un peu perdre un peu les pédales. Mais je crois que dans sa tête, il a encore des objectifs très précis. Je pense qu'au Ventoux, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au Ventoux, il se fait lâcher par raison mécanique dans les premiers contreforts. Et il finit quand même 20e. Il fait une super montée tout seul. Et il finit 20e de la montée. Il s'est reposé hier. Aujourd'hui, il n'avait aucun intérêt à suivre les grands. Il est 40e au général. À quoi ça sert? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il se reposait encore. Demain, il va encore se reposer. Et je pense que ses objectifs, pour moi, l'objectif numéro un, c'est l'Alpe d'Huez. Hein. C'est son étape, c'est sa montée. Pour moi, ce sera celle-là. Ou voir les deux autres. Mais je pense qu'il n'a pas lâché. Je pense que, pour une fois, je pense qu'il a réfléchi. Il n'a plus rien espéré de ce tour au niveau du général. Et je pense qu'il vise toujours une étape.
Alors, est-ce qu'il se réserve pour l'Alpe d'Huez, messieurs?
Non, mais c'est vrai que c'est une analyse comme une autre. Je pense que ça peut être ça aussi. Hein. Bon, loin au général, aujourd'hui, il n'a plus rien à espérer de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il ne pouvait pas jouer l'étape, donc il s'est relevé, peut-être.
Peut-être. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi Bourgui aujourd'hui? Aucun intérêt de suivre les
étapes. Il n'y a plus qu'une étape. Oui, non, mais voilà. je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus que l'étape qui peut lui sauver le tour, oui. Parce qu'il est arrivé avec de grandes ambitions. Le général, tu l'as dit, toi, tout de suite, il a vu que ça pouvait être très dur. Il s'est rabattu sur le maillot à poids, qui aurait pu être quelque chose de très bien.
Bon, mais qu'il l'a fait déjouer.
Malheureusement, il s'est aperçu que ça pouvait. C'était très compliqué, puisqu'il y avait la guerre. La guerre des grands. Et là, ce que j'ai peur sur l'Alpe d'Huez, c'est que l'étape ressemble à une guerre de tranchées sur l'avant. Et ça va faire que les échappées de long cours, il n'y en aura pas, ou alors elles seront rejointes très vite.
Moi, c'est possible, mais c'est par rapport à ce que vous disiez, pas que toi, Bourgui, mais il y en avait d'autres qui disaient que lui, voilà, il avait lâché dans les jambes, dans la tête.
Dans la tête, surtout.
Plus rien. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, je pense qu'on disait Roland lâché. Mais Roland, il ne va pas aller se battre avec les leaders aujourd'hui. Ça ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était une journée de repos. Hier, c'en était une. Le Ventoux, il l'a monté à son train, mais d'une façon assez bonne. Et demain, ce sera repos aussi pour lui. Donc voilà, je pense qu'il gère et que. Il va cibler quelque chose. Bon, forcément, je dis pas qu'il en aura, il aura les moyens de ses ambitions, on est d'accord. Mais je pense pas qu'il est complètement lâché dans la tête et dans les jambes.
Tu sais, pour le mental, je pense que se relever comme ça, plutôt que de rester dans la roue des meilleurs, ça, je sais pas, moi, je vois mal le truc. Bon, après, ça peut très bien se passer. J'espère qu'il nous montre quelque chose de bien, ou l'Alpe d'Huez, ou dans le Semnoz. Il y a quand même de belles étapes encore à venir pour lui. Et il peut partir de loin. Maintenant, il n'est pas dangereux au général. Et si on le laisse partir dans un coup, il peut aller très loin. Oui, c'est vrai.
Lucio, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Pierre Roland, ça sera dur. Franchement, quand tu te fais lâcher et que tu perds ton maillot à points, je crois que dans la tête, il est plus là, quoi. Bon, comme Thierry, je sais ce que c'est que le tour, et quand on explose dans la tête et qu'on n'a plus de point de repère au niveau du classement, que ce soit au classement général, classement des grimpeurs, alors qu'il s'en faisait un objectif et qu'il voit bien qu'à la pédale, il ne peut pas du tout reprendre des points sur Froome. Je vois mal comment, dans l'étape d'après-demain dans l'Alpe d'Huez, sachant qu'il y a l'Alpe d'Huez à monter deux fois, comment Pierre Roland peut arriver, même si à la limite il s'échappe, il prend un bon matelas au niveau de l'avance, comment il va pouvoir faire pour monter les deux fois l'Alpe d'Huez. Moi, je franchement, c'est pas d'être pessimiste, hein, par rapport à Pierre, hein. On connaît ses qualités, on connaît son mental, mais là le mental cette année sur le Tour, c'est comme tous les autres Français, enfin les leaders français, Thibaut Pinot, ça suit plus. À partir du moment où on déraille, entre guillemets, et on n'a plus de points de repère au niveau du classement et sur les classements annexes, comment faire?
Il n'y a plus que l'étape.
Il n'y a plus que l'étape, mais le problème, si tu veux, c'est qu'il peut gagner une étape, mais alors il va falloir qu'il parte de très loin et qu'il ait un bon matelas au niveau de l'avance. C'est ça le problème.
Comme je disais, je ne dis pas qu'il a les moyens de ses ambitions, on est d'accord, mais je ne pense pas qu'il est flanché, je pense qu'il a encore des objectifs. Alors, on est d'accord. Hein,
on peut toujours avoir des objectifs, voilà.
Gagner l'Alpe d'Huez, c'est pas simple, mais je ne pense pas qu'il est lâché dans la tête ni dans les jambes. Je pense que physiquement, forcément, il est encore fatigué, mais je pense qu'il a encore quelque chose à prouver. Il ne va peut-être pas le réussir, on est d'accord, mais j'étais pas d'accord sur le fait qu'il lâcherait le tour comme ça qu'il ne se montrerait plus, quoi, en sorte.
Ouais, Bertrand, on va voir tout ça jeudi. Pas, hein.
Pour toi, il n'a pas pété dans la tête.
Pour moi, non,
c'est stratégique.
Mais disons que sur les 3-4 derniers jours, on est d'accord qu'il s'est loupé sur le Mont Ventoux. Là, pour le coup, il s'est trompé de. Il avait un objectif, c'est de gagner le Mont Ventoux. Il s'y est mal pris. Il a perdu forcément beaucoup d'énergie en n'attrapant pas les échappées. Mais sa montée était très bonne. Le lendemain, il y a eu repos. Aujourd'hui, pour lui et pour moi, c'était repos. Demain, ce sera repos. Et je pense qu'il va miser tout sur quelque chose. Alors maintenant,
Bertrand, on va voir jeudi, hein, comment ça se passe dans l'Alpe d'Huez. Merci beaucoup d'avoir appelé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC, Bertrand. C'est l'Intégral Sport. Il est 20h14. On est avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Et vous, au 32-16, avec toutes vos questions sur le Tour de France, on va accueillir José, qui a 75 ans et qui vient du Val-de-Marne. Bonsoir, Roger.
Salut, Jones.
Salut, Roger. Salut.
Bon, oui, j'attends votre question.
Ah ben, c'est vous qui appelez pour poser une question, Roger, normalement, au 32-16.
Oui. Non, je voulais donner mon opinion. Moi, je pense qu'on devra peut-être attendre le deuxième tiers de la deuxième montée de l'Alpe d'Huez pour savoir si Contador conserve une chance d'inquiéter Froome. Parce que Froome était à son top de forme dès le début du tour. Et alors, le top de forme, on le garde pas tout le temps. Alors, est-ce que d'ici jeudi, Froome ne sera pas un petit peu sur la descendante, alors que Contador, lui, ne peut être que sur la montante? Et alors là...
Il faudrait qu'il soit sur la montante rapidement. Parce que là, Froome, je vois pas du tout comment il est sur la pente descendante, sachant que quand on regarde un petit peu le final d'aujourd'hui avec son coéquipier Richie Porte, les attaques de Contador, même si il a attaqué, elles n'étaient pas si saignantes que ça non plus, quoi. Je veux dire, il n'a pas fait le trou de suite, il n'a même pas lâché Mollema. Si tu lâches pas Mollema dans une dernière bosse comme celle d'aujourd'hui, Mollema il sera peut-être juste dans l'Alpe d'Huez, ça c'est sûr. Mais bon, en attendant, on voit mal comment les 4 minutes il peut les reboucher sur Froome, hein, franchement.
Non, mais il y a
pas photo. Hein. Non, il faut. C'est pas d'être pessimiste.
Il n'y a aucune possibilité pour que.
Contador joue la deuxième place du classement général.
Bah, il l'a quasiment dit lui-même.
Oui, bien sûr.
Bon, on ne sait jamais aléas de la course, mais franchement, que Froome perde la santé qu'il a en ce moment, je n'y crois pas. Troisième semaine, ça se passera comme il faut. Et Contador,
surtout avec le maillot jaune,
tu l'as dit, les attaques n'étaient pas vraiment de grosses, grosses attaques.
Alors pourquoi il attaque du coup comme ça? Pourquoi il attaque alors qu'il sait quasiment qu'il peut. C'est pas du tout pour Froome. Hein. Ça, fait une croix dessus, on est d'accord.
C'est lâcher les adversaires dans l'ensemble. Si Froome a une défaillance, tant mieux.
Thierry, les adversaires de Contador, c'est qui?
Oui,
c'est Quintana.
Oui, voilà. c'est ça, il faut se mettre dans la tête que les adversaires,
son coéquipier, ils vont pas se faire la guerre pour faire deuxième du classement général, ça sera l'un ou l'autre.
Oui, c'est ça, il faut se mettre dans la tête que parmi les adversaires d'Alberto Contador, il n'y a pas Chris Froome.
On n'est pas peur, Lucho, il serait capable de faire 2 et 3, ça serait sympa.
Non, mais c'est clair, mais à la limite, moi je dis Quintana, attends, même s'il a une petite minute 50, je crois, de retard sur Contador et Kreuziger, c'est pas fini, hein, la montée de l'Alpe d'Huez, si Quintana est pas mal, comme dans le Ventoux, hein, Thierry. Mais enfin bon, après, on va voir établir des plans demain soir après le chrono, savoir si Quintana perd beaucoup de temps sur Contador et Kreuziger.
On va en parler justement du chrono. Merci beaucoup, Roger, d'avoir rappelé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Oui, je voulais dire autre chose, c'est trop tard.
Allez-y, Roger, bien sûr.
Je signe. Je me dis qu'on peut perdre son top de forme en très peu de temps. Et je persiste donc à
non,
dire
pas
que
sur le tour. Non,
attendez. Au sommet de sa forme, dès le début du tour.
Oui,
on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la deuxième montée de l'Alpe d'Huez jeudi. On ne sait pas. Il se peut que Contador retrouve tout son jus. Moi, je
non, il est au top de sa forme, Contador, du moment. Et il peut pas progresser. On le verra pas mieux. Pourtant, j'adore Contador, mais il faut se rendre à l'évidence. Il est beaucoup moins fort que Froome, mais il le restera jusqu'à la fin du tour.
Mais de toute façon, on n'a jamais vu le cas de figure de deux montées d'Alpe d'Huez. Toute ma vie, j'espérais que l'étape de l'Alpe d'Huez serait décisive, parce qu'en réalité, on avait toujours affaire à un saut de puce. Les Cadors se marquaient à la culotte jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez, et puis là, il y avait un petit saut de puce, et il y avait 20 ou 30 secondes d'écart au sommet. On pouvait donc perdre le tour dans l'Alpe d'Huez, mais jamais le gagner. Or là, avec deux montées consécutives, on peut peut-être gagner le tour jeudi.
Ne croyez pas qu'ils vont attaquer dès la première montée, hein. Dès le pied de la première montée, j'y crois pas, moi.
Oui, c'est...
Meilleurs ne attendront quand même un certain moment, hein, avant de se tester.
Oui, mais il y aura peut-être quand même l'usure de la première montée. Oh, donc, ce qui va... Bon, je n'affirme rien, mais je me dis, on peut s'attendre à tout encore.
Ah, bien sûr.
C'est ce qui fait la beauté du tour. Il se peut qu'il y ait une grosse défaillance de Froome jeudi après-midi tard.
Merci beaucoup, Roger, d'avoir appelé le 32-16. À bientôt sur l'antenne d'RMC. Alors, chose promise, chose due, on va parler de ce contre-la-montre de demain. C'est Henri qui nous appelle pour en parler. Il nous appelle de l'Aveyron. Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
alors,
Henri.
Je ne suis pas dans l'Aveyron. Je suis à Aix-en-Provence actuellement, mais je suis bien de l'Aveyron, oui.
D'accord.
Oui. Voilà, donc bonsoir, messieurs, dames.
Et vous avez fait le chrono. Et vous avez fait le chrono, je suis sûr.
Voilà, alors moi, c'est à propos du chrono, parce que il y a aussi une chose, parce que ce que je viens d'entendre, c'est qu'il y a des choses qui ne se montent pas. Enfin, on ne peut pas gagner le tour en montant, en gagnant l'Alpe d'Huez. Mais par contre, j'ai toujours entendu qu'une bonne descente, on pouvait perdre le tour sur une descente. On ne pouvait pas gagner sur une descente, mais on pouvait perdre le tour sur une descente.
Luis Ocaña l'a perdu sur une descente.
Voilà. Et il y a une catégorie de coureurs qui n'a jamais été mis à l'honneur. Et c'est bien dommage, c'est les descendeurs. Et pourquoi, un jour, on n'aurait pas un chrono sur une descente? Pour des Jalabert, des Chavanel, des
Jalabert, ça va être dur que Jalabert revienne.
On fait la montée du Tourmalet, j'imagine. Hein. Et bien, le lendemain, vous faites un chrono, une descente du Tourmalet jusqu'à Lourdes ou je sais pas où. Quelque part, il faut défendre le maillot, mais si on prend trop de risques, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est une entreprise de spectacle et je pense que ce serait fabuleux.
C'est vrai que ça n'a jamais été fait en tous les cas.
Ouais, et puis
on a bien fait un chrono montée de l'Alpe d'Huez avec... À l'époque floue, on va dire. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi ne pas faire une descente?
Ah ouais, mais enfin bon.
Vous savez, ce type de choses existe, mais c'est dans le sport extrême. Mais c'est vrai,
non,
en plus.
Non, on reste dans du cyclisme. Il y en a pour les grimpeurs, il y en a pour les rouleurs, il y en a pour.
Oui, mais là, non, mais là, c'est.
Pour vous, ce sera un peu du folklore, ça, messieurs?
Non.
Puis non, mais ça existe en plus.
Oui, oui, mais enfin, ça existe.
Ça fait partie du cyclisme. Les descendeurs font partie des grands cyclistes.
On est d'accord, mais les descendeurs, en règle générale, c'est ceux qui montent bien. Enfin bon, pas tous, mais.
Oh, pas tous.
Sylvain Chavanel est un très bon descendeur, c'est vrai.
Je suis sûr que Bellotti, qui entend ça, il a mal aux côtes encore.
Non, mais Sylvain Chavanel, c'est un très bon descendeur. Mais pourquoi vouloir faire un chrono en descente et faire prendre une prise de risque maximum pour les coureurs? C'est les mettre en danger. Déjà, d'une part.
De toute façon, l'autre chose.
Et ça ne change rien du tout. Enfin,
il y a bien des descentes.
Chaque fois qu'ils font une descente, ils prennent les mêmes risques.
Oui, mais ils prennent des risques dans les descentes entre l'école.
Non. Parce que là où je ne suis pas d'accord, c'est que la plupart du temps, le chef, il est protégé par ces gars qui lui font la route. On est d'accord, hein, c'est de la file indienne et ils font la route. Et là, on est chacun tout seul. Chacun est tout seul et chacun doit faire sa trace. Et moi, je pense que là, on verrait vraiment, ça ferait des différences.
Et pourquoi pas, celui qui défend le maillot,
il ne prendra pas des risques inconsidérés.
Ça ne s'est jamais vu, mais pourquoi pas. Moi, je ne suis pas tout à fait contre aussi. Ça mettrait à l'honneur, comme vous dites, les descendeurs et ça serait spectaculaire. Sans vouloir mettre quiconque par terre, bien sûr. S'il y a une prise de risque, il y a les trajectoires.
En tout cas, c'est absolument pas le cas demain. Demain, c'est un contre-la-montre.
Il y a une belle descente. Il y a deux petites descentes sympathiques quand même. C'est la route, pas très bien.
Effectivement, on voit que sur certains tours, mis à part le fait de toutes les histoires qu'il y a pu avoir, il y a eu des tours sur mesure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bien sûr que vous vous rappelez, mais à l'époque de Pantani, ils ont fait un tour sur mesure. Il y avait beaucoup de montagnes. L'année où ils le font l'Alpe d'Huez, un chrono, c'est sur mesure pour Armstrong. Eh bien, moi, je pense que, on peut faire un sur-mesure pour Chavanel ou un sur-mesure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Oui, mais et puis,
c'est une entreprise de spectacle, de toute façon. Pour moi, ce serait fabuleux, quoi. Ce serait vraiment quelque chose d'inédit.
Soumettez la chose à ASO, c'est eux qui organisent pour la soumettre.
Je trouve que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Henri, d'avoir appelé le 3216.
Merci de m'avoir appelé.
Au revoir.
Voilà, Henri, qui a des propositions à faire aux organisateurs du Tour de France. Jean-Claude, lui, veut à nouveau parler d'Alberto Contador. Bonsoir, Jean-Claude.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Jean-Claude.
Jean-Claude, tu nous appelles des Alpes-Maritimes.
Oui, j'appelle de Nice, oui, tout à fait. Ah.
Tu as suivi d'ailleurs le contre-la-montre par équipe à Nice?
Je l'ai suivi malheureusement à la télé parce qu'on a fait une épreuve d'une semaine, le Tour de la Métropole qui était organisé par un grand club de Nice et la Métropole, vélo. Donc en fait on est rentré un peu fatigué et je suis resté tranquillement à la maison. Voilà.
Donc tu voulais nous parler d'Alberto Contador.
Oui, je voulais parler d'Alberto Contador pour... Je suis un petit peu, pas en colère, mais un petit peu agacé par tous les gens qui disent que Contador est pas au niveau cette année. Je pense, moi, qu'il est à son niveau. Le problème, c'est qu'il a en face de lui un Christopher Froome qui est capable d'annihiler toutes ses attaques. Christopher Froome ou Richie Porte, en fait, les deux principaux protagonistes de l'équipe Sky. Et je pense que en dehors de ça, Alberto Contador montre bien aux autres coureurs qu'il est en capacité de démarrer et de faire des écarts. Et il a prouvé encore l'autre jour en faisant beaucoup de bordures avec son équipe. Le souci, c'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui est vraiment au-dessus de tout le monde en ce moment, quoi. Et je pense que heureusement que Contador est là avec son équipe et permet d'animer un petit peu le tour, parce que sinon, c'est vrai que on serait, à mon avis, vraiment revenu à l'époque US Postal, quoi.
Oui, d'accord. D'accord avec vous, Jean-Claude, pour l'histoire de l'équipe et de sa façon de courir. Mais Contador a montré ses limites, même dans le Ventoux. Il était calé dans la roue de l'Euskaltel et il ne pouvait pas passer.
Ce qu'il faut voir, c'est que le jour d'avant ou deux jours avant, il fait une grosse étape où il fait d'énormes efforts avec son équipe pour arriver.
Trois jours avant.
Il fait d'énormes. Il n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir. C'est vrai qu'il a montré ses limites. Il montre ses limites, je suis tout à fait d'accord. Mais le rythme imposé dans toutes les ascensions par le train Sky fait que c'est très compliqué d'essayer de sortir. Et ils sont obligés de faire des efforts énormes pour pouvoir sortir. On voit très bien. Tous les gars qui ont attaqué devant l'équipe Sky en bas du Ventoux, dans les 300 mètres, ils sont repris. Et après, ils explosent. Ils n'arrivent même pas à accrocher au train.
Attention. On voit très bien que.
Jean-Claude, on va laisser Bourgui et Lucho répondre.
Oui.
Jean-Claude, on va laisser Lucho et Bourgui répondre.
Mais Contador, il n'est même pas attaqué dans le Ventoux. Il est resté dans la roue de Froome, mais c'est déjà énorme en ce moment. C'est vrai.
Oui.
Vous l'avez dit, Froome est au-dessus de la mêlée. Il y a Froome et le peloton et le reste du peloton. Et Contador reste quand même un bon grimpeur. C'est pas ce que je dis. C'est ce que je dis. Il n'est plus en mesure d'inquiéter Froome comme il aurait pu l'être il y a quelques années, c'est vrai. Il est vieillissant. Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il baisse jamais les bras et qu'il continue à attaquer. On l'a vu aujourd'hui, même si ses attaques ne sont pas de grosses attaques, ça reste des coups de butoir et des banderilles qui peuvent faire mal à force.
Tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir appelé le 3216.
Thierry a tout dit, voilà.
Et ben voilà, c'est une bonne conclusion de Lucho, qui a de la route à faire, hein, Lucho. Donc 70 km, on a compris.
Une petite musique pour me faire plaisir, tiens, pour la route.
Alors, la petite musique de Lucho. Les deux, on va mettre les deux.
C'est Luc Leblanc.
Ça va motiver pour ce soir.
Ah, mais c'est ça que tu cherches, Lucho. C'est un balmusette.
Ben oui, mais tu sais, chez moi.
Ah, mais le balmusette, Gap, il n'y en aura pas. Il n'y en a pas.
Il faut en organiser, hein, ce que je vous propose.
Souls. C'est comme ça qu'on dit, Thierry, le Souls. Hein,
bon, merci beaucoup,
ce
messieurs.
Soir, ce soir, on loge là, c'est le Souls.
Ah, je ne sais pas.
C'est là où vous allez manger. On saura donc tout. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Bah, alors, je vous souhaite un bon appétit, bien sûr.
Oui, mais à 23h, oui.
Voilà. Et après,
regarde. Écoute. Ça, c'est le rythme qu'il va falloir tenir demain.
C'est sûr que c'est pas la même chose. Hein.
Le rythme de la dernière semaine, c'est celui-là.
Ah ben, on est très éclectique hein, sur RMC. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve donc demain après le deuxième contre-la-montre de ce Tour de France.
Salut Virginie, salut.
Salut
à
demain. Vous serez avec Christophe Sessieux dans l'intégral Tour à partir de 15h. Nous, on va maintenant parler football. Edinson Cavani est maintenant un joueur du PSG. L'attaquant uruguayen a signé à Paris. Il a été présenté en fin d'après-midi. Pablo Correa sera notre invité. À tout de suite.